48 FM en direct du Salon du Vin à l'espace événement Georges Fraîche.
Apprécier la robe du vin, l'aspect visuel. Une deuxième étape où nous allons nous intéresser au nez du vin. Et finalement, nous allons goûter le vin.
Regarder, sentir, apprendre à déguster, tous les secrets du vin vous seront dévoilés dans cette émission.
Et bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde émission en direct du Salon du Vin, du 9e Salon du Vin, l'espace événement Georges Fraîche, avec Eric qui est toujours là. Salut Eric. Oui,
bonjour tout le monde.
Et nous avons également avec nous, bien sûr, Corentin la technique, Julia qui est à côté, Guy qui est évidemment là, hein. Bonjour Guy.
Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce salon.
Voilà, avec le salon et le traditionnel concours, vous en avez l'habitude, cette deuxième émission va donner la parole à ceux qui ont reçu des prix, dont le domaine de l'Arca avec Laurent Cambre qui est là. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous, deux prix, tant qu'à faire, on en gagne deux fois.
Voilà, on a fait pas mal de kilomètres, donc on s'est dit on va pas se déplacer pour rien, on va aller chercher le maximum de prix.
Pas mal de kilomètres, vous venez d'où ?
D'un petit village qui s'appelle Saint-Nazaire, à côté de Perpignan, entre Perpignan et Canet-Plage exactement.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre domaine, de votre exploitation ?
Alors, c'est un domaine familial, quelques vignes qui étaient travaillées par ma grand-mère, puis par mon père, et que j'ai souhaité reprendre lorsque je me suis installé en 2000, et que j'ai agrandi. Voilà, j'ai agrandi, puis j'ai racheté des parcelles, et j'ai décidé de partir en cave particulière, en construisant ma propre cave et en développant tout le côté marketing indispensable dans la vente de vin pour se différencier et pour espérer attraper de nouveaux marchés. Voilà.
Vous êtes passé quand, cave particulière ?
En 2006.
En 2006.
Donc 5-6 ans à se structurer, pardon, avant de se décider à se lancer. Voilà.
D'accord.
L'extension, le fait d'avoir racheté des petites vignes ici et là pour augmenter le domaine. Bon, actuellement, vous êtes sur un domaine qui fait à peu près quelle surface ?
Un domaine d'une vingtaine d'hectares.
Voilà. Et donc, vous êtes sur une même altitude ou est-ce que vous avez des...
Oui, chez nous, on est dans une zone littorale, dite de plaine, même si je n'aime pas trop le mot, parce que quand on parle de plaine, c'est souvent à connotation péjorative dans le vin. Ce qui n'est pas forcément le cas, il y a toujours des spécificités de terroir, d'entrée maritime, c'est ce qui est mon cas, puisqu'on est, vraiment face à la mer Méditerranée. Par contre, des sols différents, très différents les uns des autres. Ça a vraiment une importance. Et après, il y avait toute une collection de cépages, de vieux cépages. Moi, j'ai vraiment accordé de l'importance à acheter des parcelles qui avaient un intérêt pour soit des vieilles vignes, des très vieilles vignes. J'ai des parcelles âgées de 98 ans, soit des vieux cépages. Des cépages qui, même il y a quelques années encore, n'avaient pas trop la cote.
Et donc, vous revenez un petit peu sur le Carignan aussi, alors ?
C'est ça. Moi, j'ai cru d'emblée. Hein, d'emblée, dès que je me suis installé, j'ai fait l'acquisition d'une parcelle de Carignan qui était destinée à l'arrachage. À l'époque, il y avait encore un système de prime à l'arrachage. Et je trouvais ça complètement... c'était stupide de faire disparaître ces vignes qui étaient en grosse partie notre patrimoine. Des vignes... Bon, à l'époque, cette vigne avait 85 ans. Voilà, c'était déjà notre patrimoine. Ces vignes, lorsqu'elles ont les racines en l'air, on ne pourra pas les refaire. Quoi. Voilà,
tout à fait. Qu'est-ce que ça apporte différent, les vieilles vignes, justement ?
Ben les vieilles vignes vont puiser dans le sol. On parle de ressources, de réserves. Donc la vigne est une plante qui peine, qui traverse les différentes strates du sol. Et en fonction du travail qui a été effectué par les vignerons tout au long des décennies, ben cette vigne va aller capter les choses qu'elle a à aller chercher pour survivre, quoi. Et donc les vieilles vignes s'épuisent un petit peu, forcément, et baissent en rendement. Et moins on a de rendement, et plus on concentre naturellement sur pied. J'ai une cuvée 100% Carignan, sur laquelle j'ai plaisir à dire que je n'ai pas de mérite à la réussir, parce que c'est la vigne qui fait 90% du travail. Voilà, il s'agit d'accompagner la culture, de ne pas attraper de maladies. De ne pas être gourmand sur la taille, de ne pas laisser trop de coursons, trop de têtes qui vont produire des raisins, hein, comme on appelle ça des têtes. Et donc, si on maîtrise cette production et ce rendement, la vigne va être équilibrée. C'est un peu l'exemple d'un randonneur à qui on met un sac à dos de 80 kilos sur le dos. Si on lui demande de faire 80 kilomètres sans une bouteille d'eau, ça sera un peu compliqué. Là, c'est la même chose, quoi. Il faut l'accompagner, il faut l'aider. Et puis la vigne nous le rend, tout simplement.
L'intérêt des vieilles vignes, on peut quand même aussi le dire, bon, ça a été un petit peu expliqué par Laurent, la vieille vigne, elle fait surtout le travail que le viticulteur n'aura pas à faire, c'est-à-dire elle aura dans son temps de vie suffisamment... elle aura envoyé ses racines vers les endroits pour ce qu'elle a besoin réellement. Elle va faire une sélection naturelle. Elle va garder de la racine de surface, mais elle va garder de la racine de profondeur. Elle va aller là où c'est que le produit lui convient pour avoir le plus de typicité dans le cépage qu'elle représente. Voilà. Et donc ça intéresse énormément le viticulteur parce qu'il sait qu'il a une source sûre déjà, une vraie valeur dans le raisin. Voilà. Je crois qu'il y a un point qui est intéressant aussi sur des domaines comme le sien, Laurent, c'est qu'il est dans une zone où c'est qu'on a un petit peu de mouvement d'air, un peu de vent, et ça fait un raisin super agréable. Il est toujours propre, il y a très peu de parasites. Il faut le rappeler, il faut qu'une vigne soit bien ventilée pour qu'elle produise bien. Voilà.
On parle de vieilles vignes. Les plus vieilles vignes qui sont référencées en France, Guy, est-ce que tu sais quels âges elles ont ?
Alors oui, j'en connais quelques-unes, mais je vais te dire que les vignes qui ont à peu près 400 ans, puisque c'est à peu près l'âge d'une vigne pour certaines, ça produit absolument pratiquement rien, quoi. D'accord. Ça n'a pas de valeur. Une bonne vigne en production, quand elle est vieille vigne, elle va produire même pas la moitié de ce qu'elle produirait en vigne classique. Et quand on arrive déjà à 100 ans, c'est plus qu'honorable.
Alors, différents sols, il y a quoi comme sol chez vous ?
Alors, nous avons, moi, sur ma zone, on est connu pour un terroir de galets roulés. Donc, ce sont des terrasses de l'ère quaternaire, qui étaient constituées d'argile rouge, essentiellement, et de galets. Puis, au gré du temps, ces terrasses ont été lessivées. Les limons ont été arrachés et déplacés plus bas sur les pentes et sur les plaines. Et il est resté ces terrasses constituées essentiellement de cailloux, hein, des galets. Et selon les courbes de ces terrasses, on peut retrouver des veines souterraines plus ou moins importantes d'argile rouge. On retrouve ce qu'on appelle de la gravette également, c'est-à-dire des petits graviers, des petites pierres qui ont été déposées par des mouvements d'eau, des étangs, constitués il y a plusieurs siècles, qui se sont retirés, asséchés. Ça a fait des dépôts de gravettes, dont des sols filtrants. On a également des granites émiettés qui ont été amenés de zones plus lointaines, mais qui ont été déposés aussi par les courants, dans des sols de type safran. Ça, c'est aussi très intéressant. Ça développe on voit entre deux parcelles du même cépage. On voit en fonction des sols sur lesquels elles sont plantées, on voit vraiment d'énormes différences. Hein. La végétal lui-même ne se comporte pas de la même manière. Et les raisins ont des rendus très différents.
On s'aperçoit que sur des sols comme ça, qui sont quand même des sols assez pierreux, je prends des termes assez courts et pour qu'on comprenne bien, l'avantage, c'est que la pierre va prendre la chaleur la journée, elle va la restituer assez tard dans la nuit. Donc le raisin, il va continuer à travailler, la vigne, va continuer à travailler. Et on s'aperçoit que ces vignes-là, elles ont une réaction également à la température. Parce que quand on les observe, pour celui qui va y passer avec son sac de couchage, mettons la nuit, il va voir que la vigne va garder ses feuilles ouvertes jusque très tard, jusqu'à 1h, 2h du mat. Et après le matin, à 7h, 7h30, la feuille est légèrement retournée pour s'ouvrir sur le coup de 9h. Donc on s'aperçoit que la vigne elle passe un moment très court dans une période un peu basse en degrés. Et ça favorise un vin de qualité. C'est pour ça que quand on arrive sur la Clape, le Minervois, et qu'on continue après sur Bagnoul, etc., on commence à avoir des vins qui sont très généreux.
Donc là, vous nous avez amené les vins qui ont gagné au concours. Gourmand. On peut peut-être en parler de...
C'est ça.
En parler et les goûter aussi.
Oui, c'est ça.
Oui, parce qu'on en parle bien, mais c'est encore mieux quand on accompagne la discussion d'une dégustation.
Oui, mais après, heureusement, on n'a pas l'image.
Voilà,
c'est ça.
Donc, on va commencer par déguster un Carignan, un 100% Carignan. Donc, c'est la parcelle dont on parlait à l'instant, une vigne âgée de 98 ans. Donc, on est sur le concept d'un vin de gourmandise. Hein. Je disais tout à l'heure, le fait de faire un monocépage chez nous ne nous donne pas droit à revendiquer l'appellation Côte-du-Roussillon, Pourtant, la parcelle est plantée sur une zone AOP, Côte du Roussillon. Donc, du coup, on ne revendique pas l'appellation et on en fait un IGP, un vin de pays. On en fait un vin relativement facile à boire, où l'on ne cherche pas de complexité. On cherche tout simplement à montrer ce qu'est le Carignan sur une vieille vigne, avec ses qualités et avec ses défauts. Parce que le Carignan est un cépage rustique qui a des qualités et des défauts.
Ouais. Et puis il faut aussi dire que le Carignan, les gens avaient tendance à le mettre un petit peu de côté hein, ces deux dernières décennies. Et aujourd'hui, on est en train de le redécouvrir, on revient à la charge. Et en fait, heureusement qu'on le redécouvre, parce qu'on l'a vu aujourd'hui et hier sur les stands. On a également sur Saint-Chinian le jeune domaine où on retrouve des animaux, etc. Il revient sur du Carignan aussi. On va avoir de très belles surprises là-dessus et l'avantage, c'est que c'est un vin qu'on n'est pas obligé de boire immédiatement. On peut le conserver un petit peu, mais on peut le déguster dès aujourd'hui, bien entendu. Donc ça, c'est un vin intéressant à avoir dans la cave parce que acheter du vin pour boire dans 10 ans, c'est un peu passé de mode, quoi, voilà. À moins qu'on soit vraiment compétent là-dessus et qu'on veuille un peu spéculer.
Je vois sur la bouteille 100% Carignan Galactique. Qu'est-ce qu'il a de galactique, le Carignan ?
Alors, mais galactique, c'était un peu le côté... À l'époque, au foot, bien que je ne sois pas spécialement footeux, mais plus rugbyman, mais l'équipe du Real Madrid était constellée de stars que l'on appelait les Galactiques. Et au cours de mes premières dégustations, quand j'ai monté le domaine, on se réunissait souvent entre amis, entre copains de rugby. Et j'avais besoin d'écouter aussi leurs avis sur mes vins. Et quand les réunions de dégustation se terminaient un peu tard, et on va dire un peu euphorique, voilà. Eh bien, il y avait des idées qui fusaient dans tous les sens, et on disait ben voilà, cette vigne elle est unique, elle est constellée de souches aussi qui ont traversé tout le siècle dernier. Donc elle est un peu comme voilà les joueurs du Real Madrid. Et, voilà, les souches sont des stars et je l'ai mis un peu en avant. C'était un côté un peu humoristique de dire que ce n'était pas un Carignan lambda, mais un Carignan qui allait vers un anniversaire qui s'approchait d'un anniversaire d'un siècle. Voilà. Voilà pourquoi j'ai marqué ça sur l'étiquette. Hein.
Alors quelle récompense pour ce vin, Guy?
Ah, alors, il en a eu deux récompenses, donc je ne voudrais pas me tromper. Mais ici, on est en médaille d'or, donc c'était le Nazarus là, hein, voilà. On est en médaille d'or sur les IGP-VDP. D'ailleurs, je me disais, est-ce que c'est intéressant de continuer à faire la promotion de ce vin en tant que IGP-VDP ? Est-ce que ça ne serait pas intéressant de lui revendiquer une appellation vin de France, tout simplement, puisque c'est un peu dans la mode actuellement ?
Oui, après, bon...
C'est le choix du viticulteur. Hein. Moi, j'avoue que IGP, ça me va bien, hein.
On a des démarches qui sont... On suit des cahiers des charges. On suit une façon de travailler. On aime bien aussi que cette façon de travailler soit revendiquée, soit aiguillée par des labels. On a tendance à se laisser guider par certains labels plutôt que par d'autres.
Mais c'est quand même plus intéressant d'avoir un label Sud de France sur un flacon qu'avoir un label Vin de France.
Oui, oui, oui.
Soyons raisonnables.
Oui, oui. Je,
il ne faut pas perdre de vue un peu notre identité. Voilà. Puis en fait, moi, je commence à défendre âprement le travail que vous faites, vous les petits producteurs comme ça, parce que je trouve que le packaging dans un flacon, ça fait vendre. Et puis à l'intérieur, quelquefois, on a de bien mauvaises surprises. Alors qu'aujourd'hui, on pourrait se suffire à des vins comme ça qui sont extraordinaires. Et que tout le monde va pouvoir déguster à loisir, quoi. Donc, il faut peut-être arrêter de mettre encore des normes là-dessus, arrêter de mettre des pictos, des labels, etc. On a tout ce qu'il faut pour vendre. Il faut juste maintenant qu'on essaye d'être un petit peu ouvert à la culture de notre région.
Ça fait un moment qu'on en parle de ça aussi. Hein, mais
Oui, je trouve que c'est un peu décevant de voir qu'on est toujours en train de renchérir avec une strate supplémentaire. On a l'impression qu'on veut noyer le consommateur dans la réglementation, dans les appellations. Et ça me désole. Aujourd'hui, on a des familles qui sont bien marquées. On n'a qu'à se suffire à ceci. Et en plus, avec les vins du Roussillon et du Languedoc, hein, où il y a eu vraiment énormément de travail de fait, une vraie prise de conscience, laissons à ceux qui veulent faire du vin de masse qu'ils le fassent et qu'ils le vendent ailleurs. Mais
et donne aux petits producteurs, eux qui ont eu le courage de se faire des caves individuelles et choses comme ça, et donne-les à faire connaître leurs produits, parce que justement, c'est là qu'on prend du plaisir. Je suis sûr qu'ici, autour de ce comptoir, aujourd'hui, tout le monde a plaisir à goûter ça. Ça a bon goût. On ose mettre ça sur la table.
Oui, absolument, tout à fait d'accord. Un deuxième vin qui a été primé lors de ce concours, alors on passe dans quoi là ?
Alors là, on est justement... On saute d'une étape ce qui vient d'être expliqué pour se diriger vers les AOP Côte du Roussillon, donc qui sont des vins d'assemblage. Donc là on est en train de déguster la cuvée Victor's Premium Rouge, millésime 2014. On est sur un Côte du Roussillon. Trois cépages ont été assemblés pour réaliser cette cuvée, à savoir la Syrah, le Grenache noir et le Mourvèdre. Donc on va chercher dans un assemblage de trois cépages un équilibre que l'on ne demandait pas à la première cuvée dans le Carignan, parce qu'on avait tout misé sur le côté vieille vigne, côté vin plaisir, vin gourmand. Là, on va chercher un vin sur la cuvée Victor's Premium Rouge, un vin plus puissant, plus structuré, mieux élaboré et surtout mieux armé pour passer les années, pour passer un élevage en barrique de 12 mois qui va peaufiner cette structure, arrondir les angles, travailler les tanins dans le bon sens, les adoucir et mettre en avant un côté de compoté de fruits rouges sur mûrier. Ça va un peu assouplir ces tanins-là et faire ressortir ces arômes. Quand on parle d'élevage sous bois, eh bien, il y a les deux écoles. Les gens qui y sont allergiques, qui ne supportent pas les vins et le vin barrique. Et d'autres qui sont des fans, qui ne jurent que par ça. Donc il y a les deux écoles. Nous, vignerons, on est à l'écoute des deux sortes de ressentis de la part de la clientèle. Quand on fait un élevage sous bois, c'est souvent pour peaufiner la structure tannique et pas pour boiser. Quand on entend dire d'un vin qu'il est boisé, qu'il sent le bois, ben, c'est généralement pas bon signe. C'est qu'il n'y a rien d'autre à mettre en avant dans la cuvée. Donc là, on va se servir du bois comme d'un contenant pour travailler en douceur sur cette structure tannique qui a besoin de passer les années, tout simplement. Donc un profil un peu plus élaboré, un peu plus structuré.
Voilà, davantage de travail sur un vin comme ça. Et après, je dois préciser que ce vin, il est passé hier en concours, donc, mais dans la famille des vieux millésimes. Vieux millésimes parce que c'est un vin qui a plus de 2 ans, donc il est normal qu'on le mette dans cette catégorie-là. Ensuite, c'est un vin d'assemblage, mais là, Laurent le disait, on a quand même la base de Syrah qui revient bien, qui fait le beau support là-dessus, le grenache qui vient aussi affiner l'ensemble. Donc on a un beau mariage, c'est vrai. Et quand on le regarde ici avec les deux verres, puisque je n'ai pas tout vu moi, contrairement à d'autres, on s'aperçoit que le premier que l'on avait dégusté, on était beaucoup plus sur du violine, hein, de l'aubergine. Ici, on commence à avoir une couleur un peu plus mariée, un peu plus avancée, élaborée. Donc c'est un vin qui est un petit peu plus travaillé, effectivement, il est plus complexe.
Allergique ou fan du vin barrique, Guy ?
Ben, moi, je suis ni pour ni contre parce que j'aime tout découvrir. Et puis, j'ai toujours eu le principe, c'est pas parce que je n'aime pas un vin que j'en parlerai mal, parce que j'ai trop de respect pour les gens qui le font. J'imagine que les petits producteurs, ils ont mis tout leur savoir et tout, et les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, demain, dans mon travail, je peux aussi avoir un mauvais coup. Voilà. Et puis, ce qui peut me plaire peut ne pas plaire aux autres et inversement. Mais par contre, là où je ne pardonne pas, c'est avec la réglementation actuelle. Aujourd'hui, on a du protectionnisme pour les vins de Bordeaux, et ça, je ne supporte pas. Ils sont les seuls à avoir le droit de mettre du copeau de bois dans leur cuve. C'est inadmissible de voir qu'on continue avec cette stratégie de vente. Voilà. Et donc, aujourd'hui, où le producteur il décide de mettre son vin en barrique, et il fait un élevage en 6, 10, 12, 16, 18 mois, c'est son choix. C'est lui qui décide, il connaît son produit. Après, il le fait en barrique neuve, ou il fait des assemblages sur des barriques de 3 ans, 5 ans. C'est un bon choix aussi, s'il ne veut pas trop donner de goût de vanille ou autre. Mais je ne suis pas catégoriquement pour, et je ne suis surtout pas opposé. Voilà. Il faut qu'il y ait le juste milieu, et le juste milieu, c'est le producteur qui le connaît, parce qu'il connaît son produit.
Tout à fait. Il faut partir d'un principe, c'est que le producteur, le vigneron indépendant, en cave particulière, il doit vivre de son métier, il doit vivre de la transformation de sa culture. Avant tout, on est agriculteur, on travaille la terre, nous sommes des paysans, nous sommes des terriens, nous sommes attachés à notre terre. Quand on a pris la voie cave particulière, on décide de gérer toutes les palettes de notre métier d'agriculteur, de la production à la commercialisation, en passant par la transformation. Donc, nous faisons le choix d'élaborer nos produits que nous devons vendre. On doit vivre de cette vente. L'intérêt d'un vigneron indépendant, il est de réaliser les meilleurs produits possibles pour les vendre. Il n'est pas de chercher à tromper le consommateur ou à faire des choses qui sont dictées par on ne sait qui, quel secteur de commercialisation. Le vigneron qui opte pour ce choix-là fait une erreur. On doit raisonner en termes de logique de gamme commerciale quand on est vigneron indépendant. On ne peut pas faire 100% de nos cuvées boisées ou 100% de nos cuvées non boisées. Il y a une réalité commerciale avec des goûts et des couleurs. Et nous devons aller à l'encontre des gens, des consommateurs, pour écouter leur ressenti, leur envie et leurs besoins et nous adapter. Après, le vigneron qui fait des vins que pour se faire plaisir à lui, quelque part, il a raté une étape. Mais voilà, le choix, il faut respecter le choix. Boisé ou non boisé, pour moi, ce n'est pas le problème. Le tout, c'est de trouver un équilibre dans la gamme commerciale en faisant des produits équilibrés, bien dosés et savamment placés d'un point de vue commercial.
Justement, en parlant de commercial, quels sont vos canaux, entre guillemets, de distribution ? C'est les salons comme ici ?
Alors, je fais partie, comme je vous disais tout à l'heure, je fais partie de ces vignerons qui ont démarré de rien, de zéro. Je n'avais pas de marque commerciale à mes débuts, je n'avais pas de bouteilles, donc je n'avais pas de clients. Il a fallu que je crée des marchés en poussant des portes. Alors, je n'avais pas la prétention de tout savoir faire. J'ai appris. Au gré de mes rencontres, je me suis dirigé vers des relations amicales, qui se sont transformés en relations commerciales. Et je suis allé plus loin à chaque fois, à chaque fois qu'une porte s'est ouverte. Lorsque la porte se ferme, bien évidemment, on n'est pas plus bête que les autres. On évite cette porte-là et on essaie d'en trouver une autre qui s'ouvrira à nous. Donc, ça a commencé par une boutique de vente directe à la propriété. Les petits marchés, au départ, pour se faire reconnaître. Les salons de vente aux particuliers, comme celui de Mende, où nous sommes face aux clients, nous expliquons notre travail, nous faisons goûter aux clients nos vins afin qu'ils puissent se décider avant de l'acheter. Un petit peu donc de CHR, café, hôtel, resto. Je travaille beaucoup avec la restauration, les cavistes. Et ensuite, un petit peu de grande distribution. Alors, la grande distribution, c'est un peu comme tout à l'heure quand on parlait des vins boisés ou non boisés, il y a les pour, il y a les contre. C'est vrai qu'ils sont capables de passer un peu de volume, on a besoin d'eux. Ils ont des méthodes des fois qui peuvent nous déranger, ça c'est critiquable. Mais pour cela, stratégiquement, c'est à nous de réfléchir à une stratégie commerciale et à une gamme. C'est pour cela que moi je développe une gamme spéciale grande distribution, pour ne pas aller contre les autres gammes.
D'accord, très bien, monsieur, bien expliqué. Un nouveau gagnant qui est avec nous, on va lui prendre très peu de temps parce qu'il est seul sur son stand, donc il a besoin d'être là pour faire goûter son vin. On vous laisse vous présenter, donc un des gagnants du concours qui a eu lieu hier.
Alors mon nom c'est Guillaume Bessière, je suis vigneron au domaine Péjuscla. On fait du vin depuis 5 générations et même plus sur le domaine. Et voilà. Et puis après le vin qui a été récompensé, c'est notre tradition 2015. C'est un vin qui est effeuillé manuellement, vendangé en verre. On coupe tous les raisins de moins bonne qualité pour garder que les meilleurs. Et après, il est pigé dans la cuve et élevé 8 mois en cuve sur les fines. Voilà. Donc c'est un vin qui a même travaillé, assez complexe. Et voilà pour parler de ce vin.
Alors, il faut quand même préciser que le domaine de Péjuscla, on n'est plus sur Languedoc-Roussillon, on est à Cahors.
Ça y est, le vin qui s'est ouvert cette année à la région Midi-Pyrénées, on n'avait pas encore reçu.
L'année dernière, ils avaient commencé à participer, mais on n'avait personne sur le concours. Et cette année, ils sont venus sur le concours. On a eu cette médaille et une autre, notamment sur ces vins.
Un gagnant. Alors pourquoi ce vin a gagné, Guy ?
Parce que c'était un vin qu'il méritait.
Et en plus ?
Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les Cahors sont ou très bien connu, ou pas du tout. Il n'y a pas de juste milieu. Et en plus, cette année, vous avez payé un lourd tribut parce que la météo vous a absolument pas épargné. Donc les Cahors, alors, ça va être difficile.
Oui et non. On fait partie des quelques villages qui sont sur le Causse qui ont gelé environ à 10%, entre guillemets, alors que l'ensemble du vignoble de Cahors a été vraiment décimé. Il y a environ 70 à 80% de vignobles qui a été gelé. Donc C'est assez catastrophique.
Ah oui, parce que moi, au mois de mai, j'étais au domaine Rességuier, qui est juste en dessus de Cahors, et eux, ils sont à 70% en gel.
Voilà. Mais nous, on est sur la commune de Villesèque, et Villesèque et Trespoux, c'est peut-être les deux villages qui sont...
Alors, pour faire court de la présentation des Cahors, ce sont des vins qui sont un peu particuliers. Ça veut dire que les deux premières années, on va le déguster, mais ça sera un vin jeune, un vin frais, voilà. Et après, on va l'oublier tout simplement parce que pendant 2 ans supplémentaires, il ne va plus rien faire, ce vin-là. Il est un peu feignant. Mais par contre, à la 5e, 6e année, là, c'est un vin qui va commencer à se révéler. Et moi, les Cahors, pour moi, c'est un vrai Cahors, c'est à partir de 7 ans de vie. Et si vous respectez cette règle des 2 ans, forcément vous tomberez sur du bon Cahors. Il n'y a pas de secret, c'est toujours comme ça que ça se passe. Après, effectivement, on aura... Bon, les Cahors, les cépages sont un peu différents. Là-bas, on travaille avec du Malbec, notamment, puisque c'est le cépage emblématique de cette zone-là. Mais le Malbec, on n'est pas obligé de l'utiliser à 100%. Et d'ailleurs, c'est assez rare. Souvent, on a des assemblages à 80, 85, voire 90% maximum.
C'est le cas.
Mais là, on est à combien? 80, 82
80% environ, ouais, de Malbec, voilà. Et 20% de Merlot. Le Merlot qu'on retrouve beaucoup à Bordeaux, qui vient arrondir, ajouter de la buvabilité, voilà, à notre tradition.
Mais je trouve que finir un vin au Merlot, ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, moi, quand je faisais l'assemblage, c'est souvent ce que je choisissais.
Ça enlevait beaucoup de complexité. Voilà. Le Malbec, c'est vraiment un cépage qui va être complexe, qui va apporter charnu. Et après, à nous de travailler pour qu'il ne soit pas agressif. Donc, il y a vraiment un gros travail derrière au niveau de la vinification, déguster journalièrement pour de suite corriger si les tanins se durcissent un petit peu. Voilà.
Petite particularité sur les Cahors. Quand vous achetez des Cahors relativement jeunes, vous allez les toucher à des prix mais plus qu'abordables. C'est des vins qui vont se négocier à peu près à 5 euros, des choses comme ça. Et après, ce sont des vins que vous allez particulièrement apprécier sur les viandes du Quercy. Hein, je parle des agneaux, des choses comme ça. C'est une cuisine qui est simple mais bonne. Et quand le Cahors est beaucoup plus formé, beaucoup plus mûr, beaucoup plus généreux, eh ben là, vous allez bien sûr l'associer avec nos fameux canards et les confits de canards du Quercy. Ça, c'est ultra renommé. Moi, je suis allé déguster également les gâteaux aux noix, puisque je vais à Château-la-Grisette et des choses comme ça. Et franchement, avec les gâteaux aux noix et un bon Cahors de 12 ans d'âge, c'est parfait.
Moi, j'aimerais avoir l'avis de notre ami viticulteur, Laurent Cambre, du domaine de l'Arca, sur ce vin, avoir la vision d'un de vos collègues.
Avant d'être vigneron, je suis aussi consommateur. Hein, je bois
c'est
du
bien
vin
pour ça.
Et très curieux. Donc, je connais toutes les appellations françaises et ouais, même hors France. Après, on trouve toujours des particularités dans les autres appellations. Que nous n'avons pas chez nous, hein, des cépages différents, des sols différents, des climats différents, et donc on les apprécie pour ces différences, hein, parce que quand on se fait un palais et qu'on ne sort pas d'un type de vin, au bout d'un moment on est un peu frustré, on n'est pas trop ouvert, on comprend pas trop ce que font nos confrères. Bon, donc moi sur ces vins là que je connais un petit peu, j'adore le cépage Malbec. Ce que j'apprécie, c'est que ils n'ont pas besoin de trop de temps quand même pour être buvable, pour être bu. Ça s'exprime chaleureusement, il y a beaucoup de matière, un côté gourmand. Ce qu'on apprécie sans se prendre la tête, on n'a pas besoin sur ce genre de vin là de réfléchir à un éventuel nom de château ou voilà, on le boit pour ce qu'il y a dans le verre, cette matière, ce côté fruité qui est très présent. Et du coup, ce sont des vins très faciles à ouvrir sur beaucoup de mets simples et variés, voilà.
Il faut le prendre comme directeur de la communication, Guillaume.
Peut-être, oui, on va y réfléchir. Ah,
là,
oui,
on sent que le gars, c'est un pro, quoi. Il a l'habitude de travailler le cépage. Donc,
c'est bon, ça, on va le garder avec nous toute l'émission. On a vu qu'il y avait plein de gens qui sont arrivés, donc on ne va pas vous garder plus longtemps. Guillaume,
j'avais
merci.
Juste une
merci
question.
Beaucoup. Allez, une dernière.
J'ai entendu de la façon dont vous travaillez, c'était pigé directement dans la cuve. Oui. Ça veut dire, c'est quoi exactement?
C'est-à-dire qu'en fait, on peut choisir lors de la fermentation, il y a le jus qui va fermenter en dessous, le marc, c'est-à-dire les pulpes de raisin qui vont flotter dessus, et en fait, soit un système mécanique qui va faire des circuits préférentiels, qui va traverser donc ce chapeau de marc, mais en faisant des circuits préférentiels, et ou alors sinon avec les bottes, c'est ce qu'on fait pour nos vins. On va repousser la pulpe du raisin qui flotte dessus avec le jus en dessous. Et ça va nous permettre d'extraire plus de couleurs, plus d'arômes, plus de complexité. Voilà. Après, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts, mais après, au niveau qualitatif, c'est quand même très intéressant si on a un bon raisin sain et mûr. Voilà.
De toute façon, le Malbec, en fait, c'est un raisin qui est assez facile à travailler, certes, mais par contre, il est assez facile quand on le vendange à bon niveau. Voilà, parce que c'est regrettable de voir des gens qui rentrent sur une parcelle et ils ne cherchent pas à comprendre. Du début jusqu'à la fin, ils ramassent tout. Il faut être intelligent. Toutes les parcelles ne sont pas orientées en totalité.
C'est ce que vous disiez.
Il faut des fois s'arrêter.
Vous ne récupérez pas tout, voilà. Tous les raisins. Ouais,
après, il faut vraiment être dans le cœur du métier parce que le Malbec, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile à dompter. Du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'à la fin les peaux sont très fines et s'il arrive 3 jours de pluie, malheureusement on va ramasser un raisin qui va être très abîmé. Donc, c'est pour ça que c'est très très délicat, il faut vraiment taper au bon moment quoi.
Il y a une part de chance.
Ah pardon, excuse-moi.
Non, je disais il y a une part de chance.
Il y a pas une part de chance, mais il y a des millésimes qu'on aurait peut-être vendangé avec une plus grande maturité. Comme c'est le cas cette année et comme ils ont lancé 3-4 jours de pluie, on a été obligé de rentrer en légère sous maturité. Voilà, et donc on aurait pu profiter d'une maturité plus pleine, plus grande.
Et est-ce que sur le domaine de Pujasclin, est-ce qu'il y a du vin blanc?
Alors il n'y a pas de vin blanc, mais là on va en planter, on a passé le vin rosé, donc on va en replanter, on va également planter du vin, du cépage Viognier pour faire du vin blanc voilà, au mois de mars, avril.
D'accord. Bon, on vous donne rendez-vous alors
dans 3 ans.
Très prochainement, voilà, pour voir un peu ce que le Viognier va donner là-bas. Le Viognier qui revient en force sur Languedoc parce qu'il est de plus en plus dans les associations. Hein. Mais un Viognier 100%, c'est pas mauvais.
Merci beaucoup d'être venu.
Je vous remercie.
Merci. On va faire une petite pause musicale. Ça fait une demi-heure d'émission. Comme ça, on va pouvoir faire un changement de plateau. Laurent, si vous voulez, vous restez avec nous. Hein, c'est avec plaisir. Et on se retrouve de suite après la musique choisie par Corentin.
Slept in it. I paid for that crib and never stepped foot in. And now somebody else is eating all the pudding. Things changed, now my dashboard wooden. All black pants like a young Doc Gooden. Dark shades cause I'm stone crazy. Girl, we grown, stop playing on my phone, baby. All your childish attempts to make me angry fall short, which only fuels the rage you have because you have nothing. Understandable, I'm shining brilliant with 5 bazillions. There were times I used to hide my feelings. Now I'm butt naked in a Lamborghini and motherfuckers can't see me. Wait till this chick see me on TV. I make this shit look easy. Who would've thought I'd hit you right back?
Why you always all on my back? Why you gotta do me like that? Why you gotta act like a bitch when I'm with you?
Wanna call me baby, and you wonder why the fuck did I ain't call you lately. Some would say that I'm the symbol for sex, and others would hate, but I don't give them no breath. Go on a date, I'm at the crib with the chef, and that's me. And you could order whatever. The specialty is white snake and underwear sauce. You could probably catch me somewhere with a sunny next. And I understand it's only cause I'm popular. I'm getting tapped off in the front row of the opera. As Bocelli sings, the celly rings. I gotta go, you never know how good it feels to lay in bed with King. I'm not exactly flawless, but I'm gorgeous, just like a horse is. I know the thought of me succeeding makes a lot of people nauseous. Still, I'm on the back of the boat, taking pictures with the surface.
Why you always all on my back? Why you gotta do me like that? Why you gotta act like a bitch when I'm with you?
Get a paper cut on your tongue from a razor and a paper cup. I hope every soda you drank already shaken up. I hope your dreams dry like raisins in the baking sun. I hope your titties all saggy in your early 20s. I hope it's always snow in your driveway. hope you never get off Fridays and you work at a Friday that's always busy on Fridays. I hope you win a lottery and lose your ticket. I hope it's Ben and Socrates poop all up in your kitchen. I hope the zipper on your jacket gets stuck and your headphones short and your charger don't work and you spill shit on your shirt. I hope your tears don't hurt and I can smile in your face. Cause my loss is how Delilah changed my locks to a fade. I hope you happy. I hope you happy. I hope you ruin this shit for a reason. I hope you happy.
Why you always all on my back? Why you gotta do me like that? Why you gotta act like a bitch when I'm with you?
Look
48 FM en direct du Salon du Vin à l'espace événement Georges Fraîche.
Apprécier la robe du vin, l'aspect visuel. Une deuxième étape où nous allons nous intéresser au nez du vin. Et finalement, nous allons goûter le vin.
Regarder, sentir, apprendre à déguster, tous les secrets du vin vous seront dévoilés dans cette émission.
Allez, on est de retour en direct de l'espace événement Georges Fraîche au rez-de-chaussée. On vous rappelle la manifestation jusqu'à 17h aujourd'hui. N'hésitez pas à venir avec, bien sûr, les ateliers qui sont en cours jusqu'à midi. Atelier Accord Vin et Fromage animé par Frédéric Ducrot. La restauration à midi qui change aujourd'hui avec l'aligot saucisse, bien entendu, le fromage, le dessert et le vin. L'atelier découverte, c'est à 14h à 17h. Dégustation des vins primés animé toujours par Frédéric Ducrot. Et c'est bien parce que les vins primés, on en parle aujourd'hui avec... un nouveau vin qui a été primé et qui est avec nous, l'exploitant. On vous laisse vous présenter.
Oui, bonjour, c'est le domaine de la Rochelière à Fitou. Voilà, je m'appelle Jean-Marie Fabre et je suis vigneron sur ce domaine depuis maintenant 18 ans.
Le Fitou, hein, Guy, hein.
Ah, tout le monde connaît Fitou pour son vin. Et le château.
Et pour le
parce
château.
Qu'ils ont un très beau château, un peu en ruine, mais bon, c'est agréable. Et moi, je connais les fêtes de Fitou, c'était un régal. On rentrait au bas du village, on s'arrêtait et on avait de suite une barrière. Et là, alors, des grilles en longueur. On prenait son verre et on déambulait dans le village qui est superbe au demeurant. Et on n'a que des gens sympas à Fitou. Alors bien sûr, quand on va au château, on a du vin. Mais dans la partie basse, c'est agréable. Et alors par contre, Fitou, je suis content qu'ils aient eu une médaille parce qu'on va enfin pouvoir parler de ce terroir. C'est trois lentilles bien particulières. Et les gens, ils me disent, ah, Fitou, ça colle, c'est puissant. C'est... Bon, bah, écoutez, on va les laisser parler. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui se fait. C'est de la dentelle, là.
De la dentelle, mais parlez-nous alors justement de ce
oui, ça fait plaisir d'abord d'entendre parler de notre appellation et puis de vous remémorer l'accueil qui avait été le vôtre. Après, effectivement, Fitou, ça, dans la mémoire des gens, quoi, c'est aussi la première appellation en vin sec du bassin méditerranéen. Donc ça, cet arriéré et cet historique en matière de production, j'allais dire de petite production en termes de quantité, mais avec un niveau de qualité relativement réputé depuis déjà fort longtemps. Mais on a souvent collé à l'appellation Fitou une image de vin plutôt très dur, très rustique, très tannique, effectivement avec à la fois ses caractéristiques climatiques, le vent très dominant, la sécheresse, des terroirs schisteux, argilo-calcaires qui prédominent aussi. Mais depuis maintenant une grosse quinzaine d'années, je pense qu'on est arrivé à dompter à la fois ces éléments climatiques mais aussi ce terroir pour en faire des vins qui savent se révéler sur de la fraîcheur, de la complexité, de la rondeur. On n'a pas non plus trahi notre terroir, nos cépages. Je pense qu'on a gardé la puissance parce qu'elle existe. Mais aujourd'hui, on a aussi démontré par une meilleure connaissance des vinifications, une meilleure connaissance aussi de ces cépages et des sols et de l'adéquation sol-cépage, eh bien qu'on peut avoir des vins qui soient à la fois fidèles à leur origine, à ce qui les fait naître, hein, mais aussi avec une élégance, une finesse et donc une buvabilité beaucoup plus précoce. Bon, là, on est sur une cuvée en 2016 qui allie les quatre cépages de l'appellation parce que c'est aussi une des particularités de cette appellation, c'est qu'elle fait référence à son histoire avec Carignan et Grenache qui sont les cépages dominants, mais aussi avec Syrah et Mourvèdre qui ont été des cépages, alors à la fois au départ implantés pour être ce qu'on appelait à l'époque des améliorateurs qualitatifs, mais qui étaient souvent des cépages qui étaient mal positionnés sur les différents sols et qui aujourd'hui, par contre, lorsqu'ils sont bien positionnés, contribuent à la fois la palette, à la complexité, à la richesse et certaines à l'élégance de nos vins. Voilà, donc là on est sur un 2016 qui, je l'espère, est le reflet de à la fois cette puissance mais aussi cette finesse ou cette élégance.
Alors moi je voulais intervenir un petit peu donc sur un vin comme ça parce que ici on n'est pas sur un Fitou traditionnel si on peut dire. Bon, déjà Fitou, pour ceux qui veulent se former au vin, il y a quelque chose d'intéressant à visiter à proximité, ça s'appelle Terra Vinea. Je ne fais pas de publicité pour eux, mais c'est quand même intéressant de faire un passage là-bas. Ce sont d'anciennes carrières qui ont été réaménagées pour recevoir justement en dépôt le vin. Il y a une bonne présentation, c'est assez intéressant pour se former déjà. Mais puis Fitou, quand on y va, il faut y aller 3 jours, 4 jours. Parce que je vous invite vraiment à aller découvrir cette cuisine. Elle a énormément évolué ces temps derniers. Et surtout ces vins-là, aujourd'hui, et c'est le cas de ce vin que vous avez là dans le verre, il est fait sur un sol, sur du schiste. Et le schiste, il se révèle admirablement dans cette zone-là. C'est pour ça. Alors hier, on parlait des vins féminins et des vins élégants. Moi, pour moi, il y a la différence là. Le vin féminin, c'est quelque chose qui sera très fruité, un petit peu, on le boit autour d'une table en se tapant causette. Ici, on est avec un vin élégant. Ça veut dire qu'on va essayer d'élaborer quelque chose de fin en nourriture à côté. On va se poser, on va prendre le temps de le laisser s'exprimer dans le verre. Et ça, ça, c'est un vin élégant. Voilà. Et en plus, je ne vous dirai pas le prix, mais là, je vous invite vivement à aller sur le stand parce que vous allez avoir une super surprise. C'est un vin, je suis persuadé qu'ils ont très peu de production sur cette, sur celui-là. Et dans deux ans, le millésime qu'ils vous présentent aujourd'hui, je suis sûr qu'ils n'en auront plus en cave, parce que tous les connaisseurs vont forcément acheter pour stocker sur deux ans, trois ans minimum.
Vous n'en avez pas beaucoup de
production? Non, en fait, notre propriété n'est pas une grosse propriété. On a 15 hectares. Et effectivement, on a 5 cuvées en rouge en appellation Fitou. Donc, nos cuvées ne sont pas énormes en termes de quantité. Mais voilà, c'est une cuvée qui arrive en rupture assez rapidement. D'ailleurs, au bout de 10-12 mois, on est en rupture sur cette cuvée. Et c'est vrai qu'il faut faire ce distinguo entre vin élégant et vin féminin, parce qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes registres. Et à Fitou, on est souvent sur des vins plutôt masculins en termes de puissance, de carrure, mais on peut être sur des vins qui ont de la carrure, mais qui savent aussi se révéler sur cette finesse, sur cette souplesse. Et puis, il ne faut pas oublier que les gens ont besoin de vins, certes, avec un potentiel, avec une structure, avec une complexité, mais on le voit bien, les gens sont de moins en moins aujourd'hui capables de conserver, de stocker dans de bonnes conditions. On est d'ailleurs consommateurs, j'allais presque dire spontané, sur tout ce qu'on fait, que ce soit de l'alimentaire ou au quotidien sur d'autres types de produits. Et donc ce côté société de consommation amène les gens à acheter des vins parce qu'ils les aiment au moment où ils les dégustent et à les boire assez rapidement. Et donc tout le paradoxe dans nos terroirs, en tout cas sur nos appellations, qui sont des appellations assez structurées, assez puissantes, c'est d'arriver à offrir à la fois le même plaisir à ceux qui auront la volonté et la capacité de stocker des vins et de les garder quelques années, avec quelque chose qui va évoluer positivement et qui va continuer à s'exprimer, mais aussi de faire plaisir à des gens qui, eux, ben, vont vouloir acheter les vins et les boire assez rapidement. Voilà. Et pour ça, il faut arriver à les habiller, à révéler des tanins avec beaucoup plus de finesse et d'élégance, mais aussi à faire ouvrir et s'épanouir la palette aromatique.
Donc ça modifie complètement la façon de travailler. Comment vous arrivez justement à concilier ces deux façons de pouvoir déguster un vin?
Alors en fait, ce qui a été modifié depuis maintenant une grosse vingtaine d'années, c'est la connaissance fine de nos terroirs. Effectivement, un même cépage ne répond pas pareil sur un schiste que sur un argilo-calcaire, sur un galet roulé, lorsqu'il regarde la mer ou s'il est un petit peu plus à l'intérieur des terres. Et je crois que cette connaissance, cette adéquation cépage-terroir, nous a permis de positionner chacun des cépages là où il va s'exprimer le mieux. Et donc là où on va pouvoir le ramasser avec à la fois sa maturité aromatique atteinte, sa maturité phénolique, où la structure sera là, mais où la fraîcheur sera préservée. Et donc après, en vinification, eh bien, c'est à nous d'aller chercher ce fruit noir, d'aller chercher cette essence liée au terroir, les épices, le poivre blanc, la garrigue, parce qu'elle s'exprime aussi, tout en essayant d'avoir cette maturité suffisante pour que les tanins soient suffisamment enrobés, pour qu'ils ne viennent pas être, par leur structure, agressifs quand ils sont jeunes et auxquels on doit laisser du temps pour qu'ils s'assagissent. Et donc c'est effectivement dans la vinification qu'on est obligé d'être et à la période de maturité en matière de récolte et en vinification, où on puisse allier à la fois l'expression aromatique, le soyeux, mais en même temps la structure.
Ici, on est vraiment sur un vin d'école. On va y retrouver la couleur qui est le reflet du Languedoc. Donc, c'est ce qu'on cherche dans les concours. Voilà. Donc là, on a vraiment cette couleur. Ensuite, c'est un vin qui, lorsqu'on le voit, on n'a pas l'impression que c'est un vin jeune. On a l'impression qu'il est adulte, là. Dans le verre, il a de la marge.
C'est vrai,
c'est
oui.
Un vin qui prend de l'ampleur. Mmh. Et moi, je le réchauffais parce que j'aime bien voir son évolution. En fait, en le réchauffant, je me disais, mais depuis combien de temps je découvre Fitou? Je le redécouvre d'à peu près depuis 10 ans. Et je me rends compte qu'en 10 ans, c'est incroyable la métamorphose de cette zone-là. La métamorphose, mais sur deux zones essentielles de Fitou, la troisième un peu moins. Mais on a deux zones qui méritent d'être découvertes. En fait, j'avoue que c'est un vin qui m'a vraiment plu, parce que je l'ai trouvé tout à fait dans le goût de ce qu'aujourd'hui on veut avoir dans le verre. Et là, j'anticipe, je devine que dans deux ans, ce vin-là, il sera excellent. Donc voilà, je ne peux pas vous dire autre chose là-dessus. Il est croquant. Il est bien.
D'où l'importance, on en parle depuis hier, de savoir quand ouvrir une bouteille. C'est, voilà, les gens ne sont pas obligatoirement au courant de savoir combien de temps on peut garder une bouteille, quand est le meilleur moment pour l'ouvrir.
Oui, mais après, on a le viticulteur qui est quand même un gars qui connaît super bien son produit. Donc il peut guider aussi. Parce que les viticulteurs,
l'importance d'aller dans les caves.
Ils sont un peu timides, mais ils ont vraiment envie de parler de ce qu'ils font.
Mais c'est vrai que les gens achètent pour la plupart dans des grandes surfaces où on n'a pas de conseils.
C'est ça le problème.
Alors c'est vrai que les vignerons, ils sont sont souvent timides, mais sur les premières secondes. Parce qu'après, ce sont souvent des gens qui sont aussi en plein passion quand ils réalisent leur métier. Ils sont, lorsqu'ils parlent de leur vin, toujours relativement à même d'amener tous ces éléments de compréhension et du millésime. Parce que sur un même terroir, avec les mêmes femmes ou les mêmes hommes qui vont vinifier, avec la même volonté de laisser transparaître ce qu'on aime dans le vin, forcément, l'effet millésime peut aussi apporter des éléments qu'il faut prendre en compte. Mais je pense que ce sont des vins qui ont la possibilité d'être bu très jeune, comme d'être attendu à maturité ou à évolution, et que forcément c'est là que le vigneron doit vous donner ses conseils. Des vins jeunes doivent être oxygénés très tôt pour pouvoir révéler leur potentiel. Des vins qui vont être à maturité n'ont pas forcément besoin d'être oxygénés beaucoup de temps à l'avance, et au contrario, des vins qui sont sur la dernière phase, ce qu'on appelle l'évolution, ont besoin du moins d'oxygène possible si on veut profiter de leur équilibre et de leur plénitude. Donc je crois qu'effectivement, il faut réellement faire confiance au vigneron qui connaît à la fois bien l'évolution de ces différents millésimes depuis quelques années, qui connaît le millésime qu'il est en train de vous vendre, et en fonction de vos goûts personnels, va pouvoir vous conseiller en fonction de si vous êtes amateur de vins jeunes, de vins puissants et structurés, ou plutôt de vins qui se sont polis, affinés, un petit peu plus évolués. Et c'est vers ça que notre conseil doit vous amener à ouvrir le vin, non pas au moment où nous, on aimerait que vous l'ouvriez, mais au moment où, pour vous, en fonction de vos goûts personnels, en fonction de ce que vous aimez, eh bien, vous allez retrouver dans le vin ce que vous êtes en droit d'y attendre, parce que forcément, on a tous un palais différent et des attentes différentes. Moi, je sais ce que j'aime dans mes vins, je sais au moment où j'aime les déguster ou les découvrir, mais forcément, je dois aussi vous écouter pour vous aiguiller et savoir si c'est plutôt très tôt, très jeune, plutôt dans 2-3 ans ou plutôt dans 7-8 ans que vous allez plutôt en trouver la plénitude et l'expression la plus complète par rapport à vos goûts personnels.
Moi, je dois dire qu'également, il y a eu un grand pas qui a été fait par les petits viticulteurs avant. C'était vraiment une production de famille, donc ça se limitait... C'est pas péjoratif du tout, hein, mais ça se limitait à la compétence acquise au fil des générations, etc. Et aujourd'hui, tous ces hommes, toutes ces femmes sont allées vers l'ouverture même, de comprendre une évolution, changer quelques méthodes, ou etc. Et donc, aujourd'hui, et vous l'avez vu au travers de ce qu'il disait là, il emploie des mots que tout le monde peut comprendre, mais il montre la technicité du produit. On est vraiment sur quelque chose qui avance, qui vit. On n'est pas sur un produit liquide dans une bouteille. On sait qu'à l'intérieur, il y a une vie qui va évoluer. Et c'est tout ça qu'il faut appréhender. Voilà. Moi, je suis ravi d'échanger avec des gens comme ça parce qu'on sent que vraiment, il connaît son terrain. Et puis, il connaît aussi sa vinification. Parce qu'il y a le viticulteur, mais il y a le gars qui est en chez. Il faut savoir faire les assemblages. Il faut comprendre un petit peu, anticiper avec les températures. Voilà, c'est tout ça.
Oui, oui, puis bon, je pense que vous l'avez dit, le métier aujourd'hui d'un vigneron indépendant, il est à la fois complexe et il est fait de plusieurs facettes. C'est aussi parfois ce qui nous passionne et ce qui nous amène à faire ce métier. On n'est pas juste producteur d'une matière première, quand bien même c'est important de savoir la positionner sur un terroir. On le disait tout à l'heure, être en capacité d'extraire le maximum de sa production initiale, mais au-delà de la culture du vignoble, il faut savoir ensuite quel type de vinification on met en œuvre, pour quel type de vin, des vins plaisir, des vins frais, des vins dynamiques, des vins concentrés, des vins de plus ou moins grande garde. En fonction de ces éléments-là, les vinifications vont être adaptées, les dates de récolte aussi, mais ensuite il y a toute la partie élevage dans certains vins qui est nécessaire à aller voir se révéler de la manière telle qu'on les avait imaginées, la plus complète possible. Et puis après, il y a toute l'approche commerciale où on sent bien qu'aujourd'hui, un vigneron indépendant en Languedoc-Roussillon, c'est 2500 entreprises, c'est 40% de la production, c'est 65% du chiffre d'affaires. Mais c'est 167 destinations. Donc ça veut dire que partout dans le monde où un vigneron va vendre son produit, il est aussi l'ambassadeur de ce qu'il fait, mais aussi de son terroir. Et je crois que c'est cette tendance qui a foncièrement changé. Et les gens aujourd'hui sont en attente d'avoir, y compris au grand export, non seulement une explication sur niveau de qualité, mais aussi sur ce qu'on peut aller ressentir, rechercher, trouver. Et finalement, le vin, ce n'est plus aujourd'hui qu'un aliment, c'est aussi une source de plaisir et de convivialité. Et c'est ce qu'on est en capacité d'expliquer si on est à la fois à l'initiative de la production, de sa vinification, et aussi de son marketing, parce qu'il y a une part de la bouteille qui forcément, normalement, doit révéler l'état d'esprit ou la personnalité des hommes ou des femmes qui ont construit ces vins.
Voilà. Moi, ce que je vais juste rajouter là, c'est qu'effectivement, on vit un petit peu sur des acquis, même nous, on est conditionnés. Moi, j'ai longtemps pris du vin rouge sur du fromage, etc. Il faut essayer de bousculer ses habitudes. J'arrive à servir des vins rouges sur des poissons à la crème, mais c'est pas interdit du tout. Et bien au contraire, on s'aperçoit de saveurs et de mariages nouveaux, donc ça, c'est intéressant. Mais ce que je veux dire sur Languedoc, parce que c'est un terroir que je défends de plus en plus, c'est qu'il faut repartir à la découverte de certaines zones comme ça. Fitou, c'est le cas, pour moi, le cas d'école. Cet endroit-là, je l'avais enterré depuis un petit peu. Et là, j'y reviens de plus en plus et très souvent. Et souvent, mon chemin passe par Fitou pour mon retour. Bon, tout le monde le sait, je suis amoureux des vins de la Clap. Pour moi, c'est ce qu'il y a de... voilà. Et, mais quand je pars de la Clap, je fais quand même un passage par Fitou. Alors, les Pics Saint-Loup et tout ça, c'est très bon. Mais n'hésitez pas à aller découvrir des appellations qu'on croyait un peu oubliées, hein, les terres de Saumière, les choses comme ça. Il faut redécouvrir tout ça. Tous ces endroits où on a eu des grandes productions de vin, où c'était vraiment, j'allais dire de la piquette, mais c'est presque péjoratif, mais c'était bien un peu le cas. Ben aujourd'hui, les gens ils sont tellement convertis qu'on se rend compte qu'avec la connaissance du sol et la connaissance acquise au fil des temps, on est capable de faire des vins qui rivalisent avec, j'allais dire, des grands crus comme Bordeaux ou autres. Bon, après, je ne parlerai pas des autres zones parce que j'ai une préférence pour les autres.
Et puis, une autre orientation aussi qui a été donnée à notre vignoble, c'est que pendant longtemps, on avait considéré que la région Languedoc-Roussillon était une productrice de vin, mais de vin aliment. C'est-à-dire, voilà, ça faisait partie des choses qu'on mettait sur la table. Et donc, il n'y avait pas cette volonté d'aller chercher des terroirs, de les comprendre, de les connaître et de les mettre en exergue. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes un grand défenseur des vins de notre région, et c'est tant mieux, il en faut beaucoup, mais je suis persuadé qu'on a la chance d'avoir cette diversité de terroirs, cette diversité de cépages, cette diversité de sols, cette complémentarité entre des vins blancs, rosés, des bulles, des effervescents, à Limoux avec cette antériorité, des rouges puissants ou plus ou moins légers. On a aussi des vins doux, et c'est la première région de production de vins doux au monde. Mais je crois qu'on a la chance aussi d'être dans le bassin qui va connaître dans les années qui arrivent, et on le sent bien aujourd'hui, la plus grande croissance en termes de notoriété et d'image, parce que d'autres avaient fait ce travail avant nous. Et pour en revenir à Fitou, je pense que Fitou a été peut-être l'appellation trop près, trop tôt, dans une région qui n'était pas encore prête à faire émerger ses terroirs et sa production de qualité. Et elle s'est ensuite endormie, parce que finalement, elle s'est peut-être essoufflée à vouloir faire émerger une production qui n'était peut-être pas suffisamment établie. Et puis après, ben, d'autres ont émergé, les terrasses du Larzac, les grès de Montpellier, les Montpérou, le terroir de la Clap, que je connais bien parce que j'y suis très proche, hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, la réalité, c'est ça, c'est que cette diversité de terroirs nous permet à la fois de ravir tout le monde, mais aussi d'être la région dans laquelle demain vont s'écrire les plus belles pages de notre production viticole française.
Pourquoi sur Fitou, on ne trouve pas beaucoup de vendanges tardives ? Je ne suis pas un passionné là-dessus.
Tout simplement parce que l'historique de l'appellation Fitou, c'est avant tout l'historique vin doux naturel. Ouais. Les vins doux naturels, Rivesaltes et Muscat de Rivesaltes, dont l'aire d'appellation s'étend sur l'aire d'appellation Fitou, sont nés dans cette zone. Et donc ensuite, quand on a la chance d'avoir cette palette de vins doux naturels avec donc des sucres résiduels, on ne s'est naturellement pas tourné ensuite vers de la production de vendanges tardives. Je crois que ça a été souvent le cas dans d'autres vignobles où justement cette reconnaissance en vins doux naturels ou en vins de liqueur n'existait pas.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Très intéressant de vous avoir reçu dans cette émission. Je pense qu'on a éclairé sur ces vins de Fitou grâce à ce que vous venez de nous expliquer. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On peut juste rappeler peut-être le nom du domaine quand même. Hein.
Domaine de la Rochelière. On
voilà.
Est situé à Fitou.
En plus,
on
c'est sympa comme nom.
Jusqu'à ce soir encore, Amanda. Profitez-en.
Allez, venez merci découvrir beaucoup. Ce vin et puis vous allez être surpris. La bouteille est charmante en plus.
Allez, on termine cette émission comme on l'a commencé, par une viticultrice qui a été primée aussi hier. Le domaine, c'est une vin calvée, c'est ça?
Oui,
bonjour.
C'est bien ça.
On vous laisse vous présenter.
Alors, nous, on est un petit domaine à Maury, qui se situe dans les Pyrénées-Orientales, à la limite des Corbières. Je ne sais pas si vous vous situez, c'est sur la route des châteaux cathares. Quand vous êtes à Perpignan, vous faites 30 km à l'ouest dans les terres et vous arrivez au contrefort des Pyrénées. D'un côté, vous avez les Corbières et de l'autre, les Pyrénées.
C'est là, quand vous roulez, vous avez la vitre ouverte et vous avez toute la chaleur qui vous prend parce que tellement il y a de la roche tout autour.
C'est ça.
C'est ça.
Donc nous, aujourd'hui, notre domaine, on fait essentiellement des rouges, des côtes du Roussillon village. On a essentiellement pour les cépages du grenache noir. 70% de notre exploitation, c'est du grenache noir. Donc à Maury, on fait donc non seulement des côtes du Roussillon village, mais on fait aussi le fameux Maury, le vin doux naturel, concurrent direct du Banyuls, qu'on boit à l'apéritif ou avec du foie gras ou du roquefort aussi, par exemple, ou surtout avec les gâteaux au chocolat. Donc nous, qu'est-ce que je peux vous dire de plus,
hein? C'est terrible pour une personne qui voulait pas parler au micro, hein.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Bon, en fait, en plus, ce domaine-là, ils font pas de la dentelle. Alors ça, c'est un jeu de mots qui m'est facile. Et pourquoi?
Alors la dentelle, c'est en fait un assemblage de deux cépages, Grenache,
oui,
Carignan.
Elle a oublié de vous dire, la dentelle, c'est le nom du vin, justement.
Oui, dentelle 2014. On appelle ce vin la dentelle parce qu'on est sur quelque chose de très fin, de très élégant. Ce sont des vieilles vignes qui ont entre 40 et 100 ans. Au niveau production, on est à maximum 20 hectolitres hectares, donc ce qui est déjà très faible chez nous. Et le maximum chez nous est de 30 hecto-hectares. Donc c'est vraiment des très très faibles rendements. C'est des vignes qui sont vendangées à la main. On est sur des coteaux. On est sur du schiste noir également. On a beaucoup de soleil, beaucoup de vent, comme le disait...
voilà. Il faut du vin. Pour du bon vin, il faut du vin.
Et très peu de pluie. Donc forcément, on a des vins concentrés et puissants. Alors les dentelles, pour en revenir, on est sur donc 50% de grenache, 50% de carignan, élevés en barriques de 300 litres ou en demi-muit. Ce sont des barriques neuves ou qui ont au maximum 4 ans. Chaque cépage est élevé séparément, puis au bout de 18 mois, on les assemble. On est sur un vin qui est assez fin au niveau des tanins, concentré, avec des notes de fruits rouges. Enfin, c'est vraiment très agréable, c'est bien équilibré. On n'est pas du tout sur quelque chose de lourd, il est facile à associer.
Ici, on était en plus dans un vin primé en catégorie vieux millésime, on le disait tout à l'heure, c'est un 2014, donc c'est un vin qui a une excellente tenue et qui a encore une amplitude derrière qui est raisonnable, donc c'est intéressant. Les Côtes du Roussillon, c'est une zone de production que l'on ne connaît pas trop ici, malheureusement.
Effectivement.
Parce que c'est vrai qu'il y a un peu le problème de l'éloignement, et comme si c'était pas assez loin, on saute directement sur le vignoble de Collioure au Bagnoul. Mais entre, on a quand même d'autres vignobles, et celui-ci en fait partie. Les Côtes du Roussillon, c'est en train de se réveiller. D'ailleurs, on a eu 2 primés cette année. Je suis content de voir qu'ils gardent encore du Carignan dans leurs assemblages, mais qui misent beaucoup sur la Syrah, sur le Grenache, parce que c'est quand même emblématique de notre région. Et puis là-bas, avec la chaleur et la sécheresse du sol, c'est important. Par contre, ce que j'aurais aimé savoir, c'est sur votre domaine, vous avez un encépagement à l'hectare à peu près de combien? Vous êtes à peu près sur 4 500 pieds?
Je crois que c'est 3 500
pieds.
Hein.
Ouais. Oui, parce que vous êtes en vieille vigne, voilà.
C'est ça, vieille
vigne. Donc vieille vigne, plus du vent et tout, forcément, on peut avoir comme bon résultat. Mais est-ce que c'est rentable encore de travailler des vignes comme ça?
Ça fait
Les vieilles. C'est un choix délibéré.
Voilà. C'est un choix. Ouais. On a 70% de grenache et la plupart de nos vignes sont des vieilles vignes. On a certaines vignes qui atteignent 120 ans et ça fait des vins très concentrés, très puissants avec des arômes vraiment très très fins. On est vraiment sur quelque chose, c'est un bijou, hein. Il faut absolument venir découvrir nos vins.
Le problème, c'est que si vous voulez, pour être plus clair, c'est un gros risque pour le viticulteur parce qu'il a très peu de retours. Au cas où il tombe sur une année un petit peu négative, il va quand même plonger, il sera vite dans le rouge parce qu'il a une petite production et il n'a pas d'arrière pour assurer. Mais par contre, le fait est, c'est que quand ils ont une année normale ou d'exception, forcément, ils sortent du lot et là, c'est évident. Je pense que cette année 2016, qui n'a pas été sympathique du tout au niveau du climat, entre les gelées, la sécheresse et tout ça, n'aura pas épargné les Côtes du Roussillon. Par contre, elle leur a amené une carte de noblesse. Là aussi, ça sera un vin d'exception. Et dans 2 ans, on se donne rendez-vous parce que, bon, personnellement, je vais aller sur ces terres. Donc, je vais le juger en cave et notamment au niveau des assemblages. Je suis convaincu qu'on va avoir quelque chose d'extraordinaire. Alors attention, les prix vont flamber parce que les Côtes du Roussillon, ça va monter en flèche.
Non.
Il faut vite venir déjà acheter celui-là.
Oui, venez, je vous attends.
Voilà, ce que je veux dire, c'est que quand on a un vin comme ça, pour des gens qui connaissent un peu, on se méfie parce qu'on sait que dès que nous on détecte, d'autres l'ont fait un peu avant parce qu'ils ont les instruments pour ça. Et puis on sait aussi que le pro derrière, lui, il connaît son job. Donc il sait pertinemment ce qu'il va avoir dans 2 ans. Alors moi, je lui en veux pas. Je trouve normal d'aller vendre un vin à 18 euros quand il vaut 18 euros. Mais le gars qui met sur la table un vin qui est à 12, 13 euros en prix normal et qui le met à 18, ça me fait un peu mal aux tripes parce que justement, c'est comme ça qu'on s'aborde tout un marché. Par contre, les Côtes du Roussillon, il n'y a pas une production extraordinaire. Donc forcément, c'est des vins qui sont un petit peu plus chers. Mais un petit peu plus cher, c'est pas cher quand on est dans de l'élégance. Voilà.
Merci.
Et c'est ce qui est le cas de votre domaine. Vous pouvez venir vous rencontrer directement, discuter avec vous. On le rappelle, hein, le salon qui est ouvert jusqu'à cet après-midi, 17h. Mais merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Juste un petit mot, alors on rappelle de nouveau le nom du domaine. Hein.
Domaine Tunevin-Calvet de Moury, donc voilà. Amande, aujourd'hui jusqu'à 17h.
Et donc ce domaine se situe à peu près, grosso modo, à proximité d'une grande ville, à combien de kilomètres?
À côté de Perpignan, à 30 km de Perpignan, dans les terres.
Et c'est un domaine, elle vient de le dire maintenant, c'est dans les terres, donc c'est quand même, on est encore en basse altitude, mais on est déjà un petit peu retiré de la mer, donc on n'a pas cette incidence ou cette influence maritime.
Voilà. Merci à vous.
Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, Guy, de nous avoir éclairé pendant
Mes
ces deux jours.
Mais grand plaisir.
On rappelle, on fait un peu de pub. Il va y avoir des conférences sur le vin. Tu vas donner des conférences bientôt.
Alors, oui. J'ai une passion pour le vin et surtout pour les viticulteurs parce que je trouve que c'est des gens qui travaillent tellement honnêtement qu'on leur rend pas assez hommage. Donc j'ai décidé de monter deux conférences, un cycle de au moins deux conférences, ça sera sûrement plus. Donc la première, elle est prévue pour le mois de février, elle sera assez longue puisqu'elle va parler de la vigne depuis son arrivée sur nos côtes, mais bien au-delà puisque je vais remonter à 50 millions d'années en arrière. Donc vous voyez un petit peu la mémoire extraordinaire que j'ai. Mais voilà, on va parler des origines de la vigne au temps géologique et on l'amènera jusqu'à aujourd'hui, ce que vous pouvez constater sur nos magnifiques paysages. Parce que la vigne, ça a créé une géographie extraordinaire dans le Languedoc. Et il ne faut pas oublier aussi que les premiers cadastres ont été inventés dans le Languedoc, justement au temps des Romains, parce que c'est la vigne qui a imposé cette implantation et parce que la vigne ne se cultivait pas du tout comme on la connaît aujourd'hui. Donc on va redécouvrir tout ça, ça va faire une heure et quart, une heure et demie de conférence avec des noms illustres. Et après, un petit peu plus tard, je vous présenterai une conférence sur les vins. Là, ça sera un comité restreint puisque ça sera terminé par une dégustation, mais des vins que moi je choisis. Et des vins que je veux faire connaître. Ils ne seront pas forcément dans mes goûts, mais ils seront dans la typicité de ce que je veux expliquer aux gens qui viendront à la conférence.
Merci beaucoup, Guy. Merci beaucoup, Eric.
Oui, merci, merci pour la dégustation.
Eh bien, merci de tes questions pertinentes. Merci aussi également à Corentin et à Julia. On laisse l'antenne, c'est 11h40 passé. On vous retrouve demain. Rendez-vous l'Instant Sport, un spécial handball féminin avec le tour de Coupe de France entre le handball Nord-Lozère et le MGC qui aura lieu le week-end prochain. C'est le prochain rendez-vous sur 48FM. C'est demain, midi et demi. Bon dimanche après-midi à tous et venez à l'espace événement Georges Fraîche au rez-de-chaussée. C'est ouvert jusqu'à 17h. Nous, on va aller faire nos courses, Eric.
Et tout le monde écoute 48FM, que je remercie bien entendu pour cette partie très conviviale.
Merci, Guy.
.48FM en direct du Salon du Vin à l'espace événement Georges Fraîche.
Appréciez la robe du vin, l'aspect visuel. Une deuxième étape où nous allons nous intéresser au nez du vin et finalement nous allons goûter le vin.
Regarder, sentir, apprendre à déguster, tous les secrets du vin vous seront dévoilés dans cette émission.